12h15. Marceline Michon.
Bonjour. Les pêcheurs jurassiens haussent le ton. Ils reprochent l'inaction des autorités face à l'état des cours d'eau et de leur faune. Le canton dénonce des propos vifs et sans nuance. 72 millions de Nigérians se rendent aux urnes aujourd'hui. Des explosions ont été entendues ce matin alors que la nation élit son président. Le magazine de la rédaction vous propose un éclairage sur le scrutin du pays le plus peuplé d'Afrique. Johanna Hillen et les Suissesses à la fête ce matin lors de la descente à Crans Montana. La skieuse bernoise a signé le premier podium de sa carrière en Coupe du Monde avec une deuxième place. Lara Gout-Bérami a terminé quatrième et Corinne Souter a pris le cinquième rang. Du soleil en quantité aujourd'hui dans le ciel de la région. Il fera jusqu'à 8 degrés à Seignelégier, 9 à Saint-Imier, 11 degrés à Bienne-Moutier et Port-en-Truy et 12 à Delémont. Bulletin météo complet en fin de journal. Les pêcheurs jurassiens font part de leur ras-le-bol. La Fédération cantonale des pêcheurs tient son assemblée générale cet après-midi à Delémont, l'occasion de transmettre des doléances aux autorités jurassiennes. Alain Christ, président de la Fédération, a rédigé son traditionnel message. Il critique les autorités cantonales. Les requêtes formulées ne sont selon lui pas entendues. Il accuse le canton de rester inactif face aux enjeux concernant les cours d'eau et leur faune. Alain Christ explique l'objectif de ce message.
Il avait pour but d'alerter les autorités politiques. Et ce message est un cri d'alarme qui résume le ras-le-bol des pêcheurs jurassiens. On voudrait vraiment relever que nos rivières vont mal, que la faune aquatique va mal. Mais on aimerait bien aussi que le canton pousse l'Office de l'environnement aussi à bouger.
Le potentiel du secteur de la pêche, vous pensez que le canton pourrait en retirer beaucoup plus?
L'État jurassien fait fausse route en pensant uniquement que la pêche, ça représente qu'une rentrée financière de permis de pêche pour un montant de 100 à 200 000 francs. Vu les dernières études, il y a un potentiel de plusieurs millions. Si les départements jurassiens des finances, du tourisme et de l'environnement oseraient un peu miser sur cette activité et relancerait certainement le tourisme pêche dans tout le canton.
Le canton du Jura a annoncé hier qu'il décline l'invitation à l'Assemblée générale de cet après-midi. Le message du président de la Fédération des pêcheurs a été perçu comme inapproprié et inacceptable par le gouvernement. L'exécutif rapporte que le département et l'Office de l'environnement ont rencontré le comité de la Fédération cantonale 9 fois l'an dernier. Il souligne aussi que plus de 5,6 millions de francs ont été investis pour les cours d'eau jurassiens. Nous entendrons Laurent Gognat, chef adjoint à l'Office de l'environnement ce soir dans le journal de 18h. Un mot sur l'actualité internationale. 3 ministres britanniques sont favorables à un report du Brexit. Ils se sont opposés ce matin à une sortie de l'Union européenne sans accord. La première ministre Theresa May refuse pour sa part de l'exclure. La sortie du Royaume-Uni est prévue le 29 mars. S'il n'y a aucune avancée cette semaine, il vaudrait mieux reporter notre date de départ et éviter une sortie désordonnée, ont expliqué les ministres. Selon eux, une absence d'accord risque d'endommager gravement l'économie britannique et de menacer l'intégrité du Royaume-Uni. Toute demande de report doit être approuvée par les 27 autres pays de l'Union européenne. L'Église catholique a détruit des dossiers sur des abus sexuels. Le cardinal allemand Reinhard Marx, un proche conseiller du pape François, l'a admis ce matin. Il s'est exprimé lors d'un sommet consacré au sujet au Vatican. Des dossiers qui auraient pu documenter ces actes terribles et indiquer le nom des responsables ont été détruits ou n'ont même pas été constitués, a déclaré le cardinal. Il a préconisé la plus grande transparence sur les procès menés par l'Église. Les Césars mettent les violences conjugales en haut de l'affiche. La cérémonie des récompenses du cinéma français s'est déroulée hier soir à Paris. Le film Choc sur les violences conjugales jusqu'à la garde a reçu 4 prix, dont celui de meilleur film et celui de la meilleure actrice, Sonia Bernauer-Mia.
Jusqu'à la garde, le premier long métrage de Xavier Legrand a aussi reçu le prix du meilleur scénario original et celui du meilleur premier film. Une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint, a déclaré Xavier Legrand en recevant son prix. Le Grand Bain, comédie de Gilles Lelouch et autre grand favori de la soirée, est lui reparti pratiquement bredouille. Seul le chanteur et acteur Philippe Catherine a été récompensé par le César du meilleur second rôle masculin. Et c'est Alex Lou Schutz, qui a été sacré meilleur acteur pour son rôle dans Guy. Il s'est vieilli de 30 ans pour incarner une ancienne gloire de la chanson. Les Césars ont aussi récompensé à deux reprises le film Les Chatouilles d'Andréa Bescon et d'Éric Métayer sur la pédophilie. Il a reçu le prix de la meilleure adaptation et celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Karine Viard. Le César de la meilleure réalisation est lui revenu à Jacques Audiard pour Les Frères Sisters.
L'acteur américain de 82 ans, Robert Redford, a enfin reçu un César d'honneur.
Le magazine.
Les Nigérians se rendent aux urnes aujourd'hui. Le pays le plus peuplé d'Afrique doit se choisir un président. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin. Des explosions de mortiers ont été entendues dans l'état du Borno quelques heures avant le début du scrutin. Les élections devaient avoir lieu samedi dernier. Elles ont été reportées d'une semaine en raison de problèmes logistiques, selon la commission électorale indépendante nigériane. La victoire devrait se jouer entre deux candidats. Le président sortant, membre du Congrès des progressistes Muhammadu Buhari, et le candidat du Parti populaire démocratique, principal parti d'opposition, Atiku Abubakar. Le magazine de la rédaction vous propose un éclairage sur cette élection. Moïse Gomis, correspondant au Nigeria, dresse le portrait des candidats.
Ce sont deux figures de la vie politique nigériane, Muhammadu Buhari et Atiku Abubakar, qui s'affrontent dans une liste de 73 candidats, en fait. En fait, c'est des candidatures instrumentalisé pour rallier des votes. Certains de ces candidats, en fait, mènent campagne pour l'un des deux principaux candidats. Ils sont des alliés, en fait. Les candidats en lice principaux sont donc Muhammadu Buhari, élu pour la première fois démocratiquement en 2015. C'est un ancien responsable militaire. Atiku Abubakar, en émergeant en tant que candidat élu des primaires du PDP, de facto, il s'est retrouvé comme opposant numéro un et second favori de ces élections.
Une élection, c'est toujours aussi un moment de beaucoup d'espoir au sein de la population. Quelles sont les attentes des Nigérians ?
Les Nigérians sont en attente d'un président qui soit dynamique, parce que le Nigeria, la population, est à plus de 50% âgée de moins de 25 ans. La jeunesse nigériane est avide d'un président qui soit en prise, en fait, aux réalités. Les Nigérians veulent un président qui soit réellement à leur écoute et qui ne soit pas avec les recettes du passé, c'est les fibres régionales, communautaires. Le Nigeria est divisé avec ses trois groupes culturels importants. Et dans les nouvelles générations, les gens sont plutôt demandeurs d'un président qui soit en capacité de rassembler. Les Nigérians sont aussi à la recherche d'un président qui puisse être un fédérateur, parce que le pays est aussi traversé par des tensions religieuses entre chrétiens du sud et musulmans au nord. Et les Nigérians, surtout, veulent un président qui soit réellement aux manettes au niveau économique. C'est vrai que la présidence Buhari a été marquée par une récession économique liée aux chutes du prix du baril de pétrole. Et comme le Nigeria est dépendant du baril de pétrole, donc le pays tombe en récession. Donc les Nigérians sont demandeurs d'avoir un président qui soit réellement à leur écoute. Bien, et une des raisons pour lesquelles cette campagne n'a pas passionné, c'est parce que les deux candidats principaux sont âgés tous les deux de plus de 72 ans.
Est-ce qu'on peut dire que cette élection va se dérouler de façon démocratique, ou est-ce que le soupçon de fraude est déjà évoqué ?
Organiser des élections dans un pays comme celui-là n'est pas très simple. La démocratie au Nigeria est jeune. Les élections démocratiques ont eu lieu au Nigeria à partir de 1999. Donc ça fait 20 ans que le Nigeria, sans discontinuer, a vécu le régime démocratique. Le gouvernement et l'Assemblée nationale ont voté un budget pour sécuriser ces élections. C'est vrai que l'organisation des élections au Nigeria n'est pas très simple, mais c'est aussi l'organisation d'élections dans une nation qui apprend aussi à vivre au rythme de la démocratie.
Moïse Gomis répondait au téléphone d'Anastasia Lirti. Aucun sondage n'a été rendu public lors de la campagne électorale. Les résultats sont généralement annoncés dans les 48 heures suivant le scrutin.
Sport.
Yanis Gonia, on parle ski avec vous. La favorite est restée intouchable en Coupe du Monde à Crans-Montana.
Oui, Marceline, Sofia Goggia a brillé devant un tir groupé des Suisses qui place 4 skieuses dans les 10. Dans une descente sérieusement ralentie par des problèmes de chrono, il en est une qui a su abattre ses atouts. Une revenante en plus haut niveau, les précisions de Christian Herrmann.
tout simplement intouchable. Sofia Goggia, archi-favorite, a mis tout le monde d'accord ce matin sur la nationale. Partie avec le dossard numéro 13, l'Italienne a signé le meilleur chrono ce matin. Un exploit quand on sait qu'elle n'a pu reprendre les courses qu'à fin janvier à Garmisch, après avoir été victime d'une fracture de la malléole en octobre dernier. La skieuse de Bergame a relégué sa première dauphine à 49 centièmes, une dauphine surprise, puisque c'est la bernoise Johanna Hellen qui s'est emparée de la seconde place, devançant de 3 centièmes la leader de la discipline, rien que ça, l'Autrichienne Nicole Schmidhofer. Des petits centièmes, c'est bien ce qui a manqué aux deux Helvètes qui ratent le podium pour un rien. Lara Gut-Bérami termine en effet quatrième à 6 centièmes de cette troisième marche et pour un petit centième devant la Schwitzoise Corinne Souter. Bel accessit au passage pour la grisonne Yasmine Fleury qui boucle dans le top 10 au 9e rang d'une course sérieusement perturbée par le chrono. Réglage, correction ont en effet rallongé le passage des skieuses d'une course avancée à 9h30 pour éviter une détérioration de la piste en raison du soleil et de la température élevée attendue sur la nationale. À dire vrai, si la piste a plutôt bien tenu le choc, la chaleur a eu raison des cellules, des chronomètres et ironie du sort, ce sont 4 Helvètes sur 5 partantes qui en ont fait les frais en franchissant la ligne d'arrivée puisqu'il a fallu recalculer leur temps décalant au passage les skieuses suivantes. Alors hors anecdote technique, le bilan des Suissesses au terme de cette descente est plutôt bon puisque la Nati place 4 coureuses dans les 10 avant le second rendez-vous de Crans-Montana demain pour le combiné.
Et du côté des hommes, le Super G de Coupe du Monde prévu ce matin à Bansko n'a pas eu lieu. Les fortes chutes de neige tombées durant la nuit ont rendu impossible la tenue de la course. Demain, c'est un géant qui est au programme de la station bulgare. En ski cross, Fanny Smith accueillit une nouvelle victoire. La Vaudoise a signé son 18e succès en Coupe du Monde ce matin à Sunivalet, en Russie. Elle s'est imposée en finale devant la Suédoise Sandra Neslund et l'Autrichienne Andra Limbacher. Éliminée en demi-finale, la Bernoise Sana Ludi a, elle, pris la 6e place. Chez les messieurs, Alex Viva a eu le malheur de chuter en finale. Le Grison a dû ainsi se contenter de la 4e place. La course a été remportée par le Français Bastien Midol. Le HC Bienne a forcé sa victoire au tir au but. Les hockeyeurs ceylandais ont gagné 4-3 face à Langnau hier soir dans leur antre. Cette rencontre de National League a été longtemps indécise entre deux équipes qui ont tour à tour eu leur temps fort. Mais les Biennois qui ont longtemps souffert ont fait le dos rond pour finalement s'imposer. Ce soir, les hommes d'Antti Terminen se déplacent au Tessin pour y défier Ambri Piotta, autre concurrent direct pour une place en play-off. Est-ce que le HCB et son capitaine auront le temps de savourer leur victoire avant le déplacement en Léventine? La réponse de Mathieu Chantré.
Non, pas du tout. C'est clair que c'est une victoire très très importante, mais les dernières minutes, elles étaient très très dures à digérer. On a pris de nouveau des pénalités un peu difficiles. On a joué à 53 en prolongation, tir au but à la fin, ouais. Il y avait beaucoup à faire.
Justement, contre Ambri, est-ce que vous arrivez avec la confiance des 2 points de gagner ou bien cette petite frustration d'avoir quand même perdu 1 point à domicile?
Non, il faut prendre la confiance de ce soir parce que sinon, on n'a aucune chance demain. Ambri joue très très fort cette saison aussi, surtout à la maison. Ils ont beaucoup de confiance eux aussi, alors voilà, à fond, puis prendre les émotions positives de ce soir.
Surtout que vous êtes maintenant actuellement à égalité avec eux.
En plus. Non, c'est clair, mais... En ce moment, il y a chaque point qui compte pour les playoffs, grand match à Ambri.
Des propos recueillis par Thibaut Heyer, le HC Bienne est maintenant 5e de National League. La rencontre entre Ambri Piotta et le HC Bienne est à suivre en direct sur RJB dès 19h30. Et en Swiss League, le HC Ajoie se met sur les bons rails. Il s'est imposé 5-3 hier contre Turgovie à l'occasion du premier acte de sa série de quarts de finale de play-off. Les Jurassiens ont peiné face à un adversaire solide et bien en place défensivement. Les explications de l'entraîneur assistant du HCA, Vincent Leschen.
On a une équipe comme Ajoie qui était devant pendant la saison et puis une équipe de Turgovie qui joue sans pression. Et puis on a vu qu'ils ont des qualités. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes parce qu'ils ont cette agressivité que peut-être qu'ils nous ont un petit peu manqué au début de match.
On a notamment vu une équipe qui fermait énormément le jeu. Vous avez peiné à vraiment pouvoir passer ce filet de protection quelque part turgovien.
À trouver les solutions, je dirais. Après le premier tiers, on a refait un peu le système de sortie de zone. On a fait aussi quelques modifications au niveau des défenseurs avec nos attaquants. Je pense que c'était la bonne chose. Et puis, c'est vrai que c'est 1-0. Maintenant, on va dimanche. Et puis, il faudra être présent, il faudra être discipliné. Et puis, il faudra utiliser les erreurs qu'eux font, comme eux, ils ont fait chez nous.
Des propos recueillis par Michel Léoni. L'acte 2 de cette série, c'est demain soir à 17h30 à Weinfelden. Une partie en vivre direct sur RFJ à partir de 17h15. Le HC Franche-Montagne et le HC Saint-Imier au défi des demi-finales des play-offs de Première Ligue. Les deux formations de la région se sont hissées dans le carré d'As et entendent bien ne pas s'arrêter là. Les Teignons vont se mesurer à Adelboden dans une série au meilleur des 5 matchs. Premier acte ce soir à 17h15 à Seignelay-Légier. S'ils ont battu les Oberlandais deux fois cette saison, rien ne sera simple dans cette demi-finale. L'entraîneur franc-montagnard Fabrice de Sarzin.
S'ils sont actuellement à ce stade de la compétition, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Ça va être une équipe assez difficile à manœuvrer. On a vu le dernier match qu'on a joué chez eux, on a gagné 1-0, on a fait un match très solide. Et malheureusement, on n'a pu marquer qu'un goal, mais au moins, on a réussi à ramener les 3 points à la maison. Donc là, on ne doit pas partir sur cette base-là. On connaît leurs forces, on connaît leurs qualités, on doit essayer de manœuvrer en fonction.
De son côté, le HC Saint-Imier aura la lourde tâche de se frotter à Lys, également dans une série au meilleur des 5 matchs. Premier acte ce soir à 17h dans le Seeland. Les Bernois ont terminé en tête de la saison régulière et font figure de favoris. Mais les Imériens n'ont pas peur, leur entraîneur Michael Neininger.
C'est un gros défi, c'est une grosse équipe qui nous attend maintenant. Mais après ce qu'on a pu démontrer durant ce quart de finale, je pense qu'on a aussi nos chances. Et puis en tout cas, on va pas freiner, on va continuer à travailler fort. L'appétit vient en mangeant. On m'a posé la question, est-ce que ce serait déjà bien de gagner un match? J'ai dit non, nous on veut aller au bout et puis on va regarder déjà ce premier match, comment il se passe, et puis calculer à la fin de la série. Mais en tout cas, on va rien lâcher et puis on va rien donner à Lys gratuitement.
Et du côté de la deuxième ligue, les demi-finales des play-offs verront deux équipes régionales croiser le fer. Le HC Tramelan et le HC Dolémont-Vallée disputent l'acte 1 ce soir à 18h dans la patinoire Tramelotte. La série se joue au meilleur des 5 matchs. Et en football, le FC Basse-Cours termine sa préparation sur un match nul. Les joueurs vedettes Première Ligue ont été tenus en échec un partout par Colombier hier soir à Neuchâtel. Face à une équipe issue de deuxième ligue interrégionale, le FCB a dû s'en remettre à une réussite de Axel Gester pour ne pas subir le camouflet. Cet après-midi, c'est un derby amical qui est au programme. Le FC Bienne reçoit les SR de Lémont à 14h30 à la Tissot Arena. Il s'agit du dernier match de préparation des deux équipes avant l'entame du deuxième tour du championnat de Première Ligue la semaine prochaine. Bon après-midi.
L'information, vous la retrouvez en tout temps sur notre site rfj.ch. On va s'intéresser à la neige et à l'état des pistes de la région.
La météo des neiges avec le domaine skiable des Bugnonnais à Vanières.
Pas trop de soucis en ce qui concerne le ski de fond, puisque les pistes sont bonnes à praticables sur l'ensemble de la région, notamment dans les Franches-Montagnes, sans oublier Mont-Soleil, Mont-Crozin également, et puis les Bugnonnais-Savanières. Là, on fait du ski de fond sans problème. En ce qui concerne le ski de piste, ça va relativement bien. Les Bugnonnais-Savanières, les Prédorvins, Tramelan, les Breuleux, les Genevées, là, les pistes sont bonnes, les installations sont ouvertes. Elles sont fermées par contre à Grandval, nos Chasserelles et à Malraix. Mont-Soleil, les pistes sont bonnes, les installations sont ouvertes et les Écorcheresses également, les pistes sont bonnes et l'installation est ouverte. On rappelle qu'il y a aussi toujours des parcours en ce qui concerne la pratique de raquettes. Et puis on vous demande toujours de respecter les pistes en ce qui concerne les pistes de ski de fond notamment. Voilà ce que vous pouvez découvrir ce week-end ensoleillé en plus avec de la neige. Bref, le décor est absolument parfait.
C'était la météo des neiges avec le domaine skiable des Bugnonnais à Vanières.
La météo de ce samedi avec un temps bien ensoleillé, il n'y a pas besoin d'aller voir les spécialistes pour s'en rendre compte. Les températures sont agréables jusqu'à 10 à 12 degrés, jusqu'à 8 à 10 degrés à 1000 mètres d'altitude avec une petite bise à basse altitude et dans les vallons. Elle est modérée à forte sur les crêtes. Demain jusqu'à jeudi, le temps est bien ensoleillé. Quelques grisailles par endroit le matin. Sinon, l'ambiance est plutôt agréable avec des températures maximales de 12 à 16 degrés vers 1000 mètres d'altitude.